Les nuits de France Culture, la nuit de la COP 24, nuit commencée en votre compagnie, Georges Clay, vous qui venez de publier chez Manifesto La fleur au fusil, nutrition, santé, climat, deux points, la science des plantes sauvages pour sauver l'homme. Nuit au cours de laquelle nous avons pu écouter quelques émissions, bien sûr, la Tribune de Paris sur la protection de la nature est-elle nécessaire? C'était un point d'interrogation, un débat d'Émile Dana en 1948 sur la chaîne nationale, puis l'air devient impropre à la consommation, alerte par Fernand Lotte, une diffusion de 1959. Une histoire du pince-oreille, voilà, un petit peu de fiction quand même, sur les arbres, la symphonie des arbres, l'arbre généreux de Shel Silverstein, et puis l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Et à l'instant, cet indicatif futur, regard sur le monde à venir, on était en 1970, le monde à venir c'est toujours l'an 2000, hein. Quand on est dans l'après-guerre, on n'imagine pas plus loin, mais on pense que ça pourrait être mieux. C'était sur le méthodes et expérimentations, donc pour explorer le futur. On aura d'autres émissions au cours de cette nuit de la COP24, un dialogue pour en finir avec la société de gaspillage par Roger Pilaudin qui réunissait Alfred Sauvy et René Dumont en 1973. Et puis on pourra suivre une très belle pièce de René Char, Le soleil des eaux, une réalisation de Georges Gravier, une pièce qui a été diffusée pour la première fois sur France Culture en 1983. Donc, COP24, votre métier, je le redis, Georges Oxley, c'est biologiste. Alors biologiste, c'est pas suffisant, je suis sûr qu'il y a des termes qui sont accolés à ce très joli mot pourtant, de biologiste. Ce serait quoi? Biologiste du sous-sol, du sol, du...
Alors biologiste du sol, biologiste des micro-organismes, donc c'est de la microbiologie. Toutes les bactéries, les champignons, les virus qui font partie de notre corps, de notre vie, et qui nous font vivre et qui nous font avancer, reculer, tout ce qu'on veut. Et aussi, donc là-dessus, c'est les applications surtout, parce que moi j'ai eu toujours ce professeur qui m'a vraiment influencé, qui était Théodore Monod, qui me disait il faut faire des choses utiles, voilà. Et donc faire des choses utiles, c'est-à-dire avoir transmettre la connaissance, la rendre utilisable. La première chose, ça a été la connaissance des mycorhizes dans le sol, aider l'agriculture, parce que on ne nourrit pas la plante, on nourrit le sol qui nourrit sa plante. Personne ne sait nourrir une plante, en réalité, une plante qui est... Et puis de toute façon, maintenant, on a découvert que les plantes, c'était des organismes qui étaient symbiotiques entre les champignons et les végétaux. Donc un végétal tout seul est une absurdité. Et nous-mêmes, nous sommes des animaux symbiotiques. Et nous ne vivons qu'avec des symbioses. Et donc c'est toute cette approche où là, on a replacé l'homme véritablement dans son organisation sociale universelle, c'est-à-dire terrestre, vraiment, où l'homme sans ses microbes ne peut pas vivre, l'homme sans ses champignons ne peut pas vivre. Et même, je dirais plus, puisque ne serait-ce que nous avons par exemple des acides aminés essentiels. Eh bien, ces acides aminés essentiels sont fabriqués par des champignons. Donc, sans le champignon, nous ne serions pas des hommes. Voilà. Donc, c'est replacer l'homme dans cette nature. Et donc, mon rôle, il est aussi bien au niveau de l'agriculture, mais aussi, j'ai travaillé dans les cosmétiques, essayé de remettre toute cette approche microbiologique au sein des cosmétiques. Là maintenant, ce qui est très drôle, c'est que je viens d'une mission au Brésil, il y a près d'un mois, et j'ai travaillé pour une marque de chaussures. Alors, vous voyez, c'est incroyable. Donc, c'est une marque de chaussures française de basket qui, maintenant, s'est rendu compte que, puisque le latex, finalement, vient de l'Amazonie, et elle se rend compte que sa source est en train de se tarir et que, elle, cette marque de basket, peut avoir un impact sur la reforestation. Et donc, c'est d'organiser toute l'agriculture et d'organiser une meilleure production de latex, mais aussi voir toutes les fibres, toutes les coloris, les pigments, là, tout ce qu'on peut tirer de cette chose-là, et le faire en sorte que ça puisse avoir un impact social, et que quand on achète une basket, eh bien, derrière, ça se répercute sur des paysans. Et voilà le rôle que devrait avoir la COP21, la COP24.
24.
Oui, mais on retient toujours la COP21. Oui, parce que c'est ça a été... Voilà, moi je retiendrai la COP 15, parce que, mais tout le monde a décrié en disant que c'était un grand échec. Et c'est un grand échec parce que aucun des pays en voie de développement n'a voulu de l'aide des pays développés. C'est d'autres mots maintenant qui sont beaucoup plus politiquement corrects qu'on utilise. Donc ça a été vraiment un échec total. Et donc la COP 21 a été le premier pas vers quelque chose un peu plus... éduquer, je veux dire, où les entreprises n'ont pas pris, les lobbies et entreprises, donc, n'ont pas pris la COP 21 comme un outil, et c'est ce qu'ils avaient fait pour la COP 15, je suis désolé de le dire, et donc où on a eu l'espoir de voir un véritable changement. Et pour moi, l'espoir, bon, il n'est pas là. L'espoir, ça serait que ces entreprises vraiment décident d'avoir un intérêt de s'intéresser à l'homme. Mais l'espoir, pour moi, ça a été la boîte de résonance absolument prodigieuse que la COP 21 a été pour l'intérêt des journalistes, qui est fondamental parce que c'est l'intérêt du grand public qui est derrière. Et quand on est toujours sur le terrain et tout ça, il y a des grands mots et on se sent souvent bien petit, bien faible, parce que justement, ce sont la plupart du temps des mots creux pour le grand public. Et donc, c'est cette charge d'éducation, finalement, qui n'est pas prise réellement par les États, mais qui est reprise par la presse, qui est, pour moi, le plus fondamental. Et voilà, c'est pas pour vous envoyer des fleurs, hein. Moi, de toute façon, par exemple, c'est ce que fait les Nuits de France Culture. C'est cet rappel de mémoire. C'est fondamental. Au Brésil, c'est ce qui se passe. Il y a un problème de mémoire, d'éducation et tout ça. Donc, on réagit, on vote d'une manière complètement épidermique. Et voilà, bon.
Vous dites, Jean-Jacques Clay, que il n'y a pas de mots creux. Il y a des mots très scientifiques, par exemple, dans La fleur au fusil, mais c'est une lecture quand même très, très, très agréable, très facile pour quelqu'un qui n'est pas scientifique. Alors, La fleur au fusil, on a l'impression, s'il n'y avait pas de sous-titre, on se demanderait bien de quoi il s'agit, parce que la fleur au fusil, c'est quoi?
Ah, ben oui, en 1914, c'était.
Oui, on partait en 14,
la fleur au fusil, mais après, c'était quand même un grand hymne pacifique. Oui. On part la fleur au fusil, mais
et on tombe
et
sur
on
le
tombe
champ.
De haut. Voilà. Et puis après, dans les années 70, la fleur au fusil, c'était justement on mettrait des fleurs au fusil pour
peace and love.
Voilà, oui. Aussi.
Et maintenant, ce n'est plus ça.
Ben, c'est-à-dire que c'est terrible. Moi, j'ai repris les fleurs parce que, en fait, les fleurs pour moi sont des choses fondamentales parce que elles ont leurs racines dans la terre. Et en fait, il y a des fleurs et des graines partout. Les fleurs ont 200 millions d'années, hein, pour moi, si on peut repartir un petit peu dans l'histoire. Et donc, il y a des graines partout. Et en fait, elles décident de pousser, parce qu'elles ont fait des graines, ce qui est une chose absolument incroyable, parce que l'homme, il continue à faire des enfants pendant la guerre, dans les situations terribles, mais la plante, non. La plante, elle décide de germer quand le moment est venu pour elle. Et donc c'est un stade d'intelligence beaucoup plus avancé. Et derrière ça, ce qui fait que quand on inverse ce processus, quand on voit des fleurs qui sont épanouies devant nous, eh bien en réalité, elles nous parlent de la terre. Et pour moi, les fleurs sont des bio-indicateurs, en fait. Ce sont des indicateurs de la santé de la terre. Et c'est un petit peu, en fait, comme si la planète vous parlait plein de fleurs à la bouche. Pour moi, la planète me parle à travers les fleurs. Et ces fleurs sont là pour nous soigner, parce que les plantes, en fait...
Elles nous alimentaient.
Elles nous alimentaient, mais aussi, elles font un travail sur la terre. Elles ramènent la terre vers plus de fertilité, elles produisent la matière organique, elles entretiennent une biodiversité de micro-organismes, de mycéliums, de champignons. Et donc, ces mycéliums, cette biodiversité, eh bien, c'est ce qui nous fait vivre. C'est le maintien de notre santé. Et ce qui est très très drôle, parce que ça, on s'en rend compte depuis très très peu. Parce que, par exemple, il y a exactement 2 ans, la station internationale de recherche qui est au-dessus de notre tête, et ils se sont rendus compte que c'était pas très propre. Et donc, il y avait, c'est une prolifération de micro-organismes. Et donc, il y a des ingénieurs qui ont dit, ah oui, on faut tout passer au Karcher, faut tout nettoyer et tout ça. Et, d'une manière complètement extraordinaire, un biologiste de la NASA a dit, mais non, non, vous imaginez si vous tuez tout ça? Et si vous faites place nette et qu'il y ait une bactérie qui résiste d'abord, ça sera la plus résistante et elle prendra tout. Et vous envoyez vos petits jeunes de l'Arkansas à 20 ans là-dedans et qui n'ont jamais vu une ferme et tout ça, eh bien, ils seront morts. Et pour la première fois depuis Pasteur, dans une grande réalisation mondiale de la science, on a refusé la pasteurisation, on a refusé le désingage systématique de la vie. Et on a reconnu la biodiversité. À tel point que aujourd'hui, là, on va faire une étude avec les microbiologies de Caen et le King's College à Londres sur nos vins, sur les levures de nos vins, parce qu'aujourd'hui, pour faire du vin, on met des levures avec des gènes tueurs de levures dedans. Et donc, nous, on va étudier ce vin nature et le vin fait de la manière nouvelle avec les ferments synthétiques, transgéniques, avec CRISPR-Cas9, et de voir donc l'impact sur le goût, parce que ce respect de la vie, c'est aussi une chose qui a permis notre gastronomie, développer notre savoir-faire.
C'est presque un livre de cuisine, hein, La fleur au fusil.
Ah oui, c'est fondamental. Moi, on me disait quand j'étais
sans recette.
Enfant, oui, il n'y a pas de recette. Mais il faut vivre pour se nourrir ou se nourrir pour vivre. Et en fait, moi, j'ai pas trouvé la solution encore. C'est une chose qui m'est très très étrange, cette question, parce que tout est lié. Et finalement, peut-être même, ce sont les mythes grecs qui nous rappellent ça, puisque finalement, Prométhée a rapporté au petit dôme le feu, mais dans une tige de fenouil, en lui apportant l'ingrédient, parce que le fenouil c'est difficile, surtout le fenouil sauvage, c'est difficile à manger, c'est un peu trop dur, et donc il lui apportait avec le feu le devoir finalement de se cultiver, c'est-à-dire le devoir de cuisiner. Et cette recherche de l'élaboration, de la complexité et cet intérêt pour la construction, les constructions mentales et qui se retrouvent dans le goût, dans la beauté. Parce que c'est ça aussi, la diversité, c'est un champ qui est rempli de fleurs de toutes les couleurs et qui nous donne tout de suite le niveau et le degré de la santé de ce champ et donc de notre alimentation.
Voilà, je ne sais pas ce que donnera la COP24, mais en tout cas, Georges Huxley, je sens que, en lisant La fleur au fusil, je disais un livre de cuisine, bien sûr, c'était entre guillemets, mais c'est presque un livre de survie aussi, parce que c'est des fleurs qui poussaient à Sarajevo, qui pendant 3 ou 4 ans ont permis à, quand même, à pas mal de gens de survivre. Absolument. Survivre, hein, c'était pas dans le bonheur, mais en fait c'était survivre quand même. C'est vrai que l'agriculture c'est une des causes majeures du bouleversement climatique et on mange du pétrole.
Oui, 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 parce que en fait on ne fait plus confiance à la terre. Et ça c'est vraiment la chose la plus terrible de pour un biologiste, c'est de voir cette prétention de l'homme qui se détache du sauvage, finalement, de la nature. Alors que nous sommes, comme je le disais plus tôt, vraiment une partie intégrante. Et voilà. Donc ça c'est vraiment un drame.
Et ça pose de graves problèmes de santé. Enfin, je pense que les auditeurs pourront lire donc tout ce qui concerne les enfants, les parents, les grands-parents, parce qu'il y a vraiment, on sait à quel point les maladies dégénératives, toutes sont liées à l'alimentation, du moins à quel point l'alimentation nous abîme. Je voulais dire aussi, donc, Georges Huxley, qu'il y a des personnages comme ça qui, alors on va pas avoir le temps d'en parler beaucoup, mais vous parlez de diesel. Alors là, tout le monde sait ce que c'est que le diesel. Diesel, mais peut-être pas Monsieur Diesel. Il y a un personnage aussi d'Alexis Soyer.
Oui.
Et voilà, dites-nous quelques mots sur ce personnage qui est
d'abord Diesel parce que
alors d'abord un Allemand, là, Diesel.
Mais non.
Même pas.
Il est français.
Il est français. Oui, c'est ça.
Il est français parce qu'il est né en France et il est parti. Ses parents sont partis après la guerre de 70 et ont immigré à Paris. Et donc le petit Diesel est allé au lycée de Turbigot. Et ce qui l'a un petit peu mis le virus un petit peu du moteur dans le sang finalement, c'est sa visite juste à côté du musée de Turbigot, du lycée de Turbigot. Il y a le musée des arts et métiers que je conseille à tout le monde d'aller voir, qui est magnifique. Et bien, et d'ailleurs j'ai proposé à la mairie de Paris de faire une statue à Diesel.
Tout le monde m'a quand même.
Tout le monde m'a rayonné. Mais en fait,
quelques
Diesel,
cartouches explicatives.
Il a inventé le moteur à huile. Mmh. Bon, le problème, c'est que les seules personnes qui ont cru dans son moteur, c'est une personne qui s'appelle Krupp et l'autre qui est le groupe Mann, donc de premier moteur au monde. Donc, et au moment où il a déposé, puisqu'il n'avait pas les sous lui-même pour faire le brevet mondial, qui coûtait assez cher, eh bien, Monsieur Krupp a donné les sous, sauf qu'il a rajouté au moteur à huile, huile lourde. Et c'est à partir de là que tout a déraillé. Parce qu'en fait, Diesel est un scientifique qui était à l'écoute de toutes les sciences, comme tout le monde. Et Diesel a publié, à compte d'auteur, un livre qui s'appelle « Solidarismus », que tout le monde devrait lire et qui devrait être traduit en français, où on donne, c'est un petit peu la fleur au fusil de l'époque, parce que il dit « toutes les solutions naturelles pour sauver l'industrie et sauver l'homme ».
Et lui, il s'est pas sauvé, hein, lui-même.
Oui,
bon,
voilà.
On lira ça dans votre
voilà.
livre,
Jean-Jacques Sley.
Mais Soyer, alors très
brièvement,
Alexis Soyer,
c'est aussi un inventeur, un cuisinier français. C'est lui qui a inventé le four à gaz, par exemple. Et c'est quelqu'un qui
travaille à Londres.
Il s'est émigré à Londres parce que quand il a été, c'était au moment de la révolution, donc c'était dans les années 1830, il a failli être passé par le fil de l'épée alors qu'il était le chef de cuisine de Polignac, qui était le futur premier ministre du roi Charles X, je pense. Et donc c'est juste au moment de cette révolution où il s'est sauvé parce que les révolutionnaires allaient le tuer. En chantant la Marseillaise. Et donc, il est allé, loin de ces barbares français, donner ses charmes de la gastronomie française aux Anglais. Et en fait, après, c'est lui qui a, par exemple, organisé des cuisines pendant la famine en Irlande. Il a fourni 5 millions de repas par an. C'est lui, après, qui est allé, pendant la guerre de Crimée, donc au moment où un autre faisait la Croix-Rouge, eh bien, lui, et au moment où Florence Nightingale aussi a inventé les puisqu'il était lui-même le cuisinier de Florence Nightingale d'une manière totalement gratuite, et il est allé réformer les cuisines militaires. C'est lui qui a créé la ration du soldat, c'est lui qui a créé... Et donc, c'est des gens absolument généreux, comme ça, qui ont fait ça d'une manière totalement spontanée.
Et ben c'est des personnages comme ça qu'on retrouve dans La Fleur au Fusil, qui n'est pas simplement un texte sur la nutrition, la santé, le climat et la science des plantes sauvages, mais voilà, il apparaissent de temps en temps, comme ça, des biographies très très intéressantes, Georges Huxley. Alors, eh ben on continue à écouter les archives de cette nuit de la COP24, et puis on se retrouve en fin de nuit pour, je vous poserai une question très très banale sur l'optimisme ou le pessimisme, etc. Vous ne me répondrez pas, j'espère.